Bonjour à vous et bienvenue Opale et Ombre. Merci d'avoir accepté cette interview dans le cadre de l'article intitulé Amour et BDSM, séparés ou associés. La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est pouvez-vous vous présenter?
Donc, Opale, soumise à mon ombre depuis bientôt 2 ans. J'ai toujours été attirée par le milieu du BDSM, sans jamais avoir d'occasion de l'assumer réellement. Et là, depuis 2 ans, je suis enfin moi-même.
Est-ce que vous pouvez compléter en donnant un âge ou un âge approximatif, une région si vous avez envie, il n'y a rien d'obligatoire, et éventuellement un métier ou une compétence professionnelle. Alors, ce n'est pas forcément obligatoire, encore une fois, mais l'objectif pour moi dans l'article, c'est notamment de casser les idées reçues de ceux qui pensent que les pratiquants BDSM sont des marginaux.
Et donc, j'ai 43 ans et je suis employée de banque. Et je vis en région centre.
Donc, moi, c'est Ombre, j'ai un peu plus de 50 ans. J'évolue dans le milieu du SM ou du BDSM depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que, grosso modo, ça a toujours été ma sexualité, on va dire. J'habite en région parisienne et je suis dans le milieu de la finance.
Pouvez-vous expliquer comment chacun d'entre vous en est arrivé à s'intéresser au BDSM?
Moi, ça a été principalement par des lectures. J'ai commencé par Sade. Je suis rentrée direct dans le vif du sujet. Et puis après, y a eu Histoire d'eau, etc. Et voilà, c'était quelque chose. Je me suis dit, mais c'est moi, ça. C'est ce que je ressens à l'intérieur. Le problème, c'est que après, pour pouvoir assumer ce genre de choses, ça a été beaucoup plus complexe.
Pour l'assumer vis-à-vis de vous-même ou pour l'assumer vis-à-vis des autres?
Pour l'assumer vis-à-vis des autres, parce qu'à partir du moment où j'en parlais à des petits camarades de jeu, au mieux, ça les faisait rire, au pire, ils fuyaient de façon totalement horrifiée. Donc, c'est quelque chose que j'ai très longtemps dû taire pour éviter des réactions négatives,
D'accord.
malheureusement.
Et vous, Ombre?
Moi, ça a été d'une manière que je qualifierais de totalement naturelle, que j'ai analysé bien plus tard. En réalité, il y avait des choses que j'ignorais qui se sont passées dans ma vie et qui ne me ramenaient que à ça. Ça a commencé même tout gamin. C'est-à-dire un côté sadique où quand on est gamin et qu'on découvre sa sexualité, je parle vraiment de tout petit, hein. On a des petites copines et on peut jouer au docteur ou se découvrir ou ce genre de choses. Il y avait déjà cette notion de douleur qui pour moi m'apportait quelque chose. Et qui, pour les petites copines, on va dire, avec qui je jouais, qui elles-mêmes revenaient le chercher, ce qui était le plus étonnant. J'ai découvert plus tard le comment, le pourquoi. Après, il y a eu la période adolescente, où là, pareil, j'ai découvert des écrits, entre autres le Marquis de Sade. J'avais une grand-mère qui avait une bibliothèque énormément fournie, mais qui n'avait jamais ouvert aucun livre de sa vie. Et donc, quand j'étais adolescent, je lisais devant elle le Marquis de Sade et elle me regardait en disant « Qu'est-ce que tu lis ?» Et je lui expliquais à peu près ce que je lisais, bien entendu, en omettant de lui raconter les passages scabreux de mes lectures. Voilà. Et elle trouvait que c'était très bien que je lise. Elle ne savait absolument pas ce que j'étais en train de lire devant elle. Et puis après, quand j'ai commencé ma vie d'adulte et d'adolescent, vers mes 18 ans, je suis tombé sur une dame qui avait une trentaine d'années, qui a été ma maîtresse, ma copine, la femme avec qui j'étais, quoi, et qui, elle, avait déjà un pied là-dedans et qui a commencé à me montrer et à me faire découvrir, et où j'ai découvert à ce moment-là en me disant, mais tiens, mais il n'y a pas que moi qui suis comme ça. Il y en a d'autres. Et donc, il m'a mis on va dire, le pied à l'étrier dans le milieu parisien, dans les années 90. Alors, dans les années 90, on n'en parlait pas. C'était plutôt pas secret, mais vraiment très discret. Et il fallait effectivement avoir un peu de connaissances pour accéder au réseau, connaître des gens et pouvoir sortir, découvrir, participer à des soirées, ce genre de choses. Voilà.
D'accord. Je me suis retenu de rire à l'évocation des lectures devant votre grand-mère. Forcément, c'était
Mais...
drôle.
Non, non, mais c'était très drôle parce que j'avais la preuve qu'elle n'avait jamais ouvert. Elle avait une bibliothèque énorme et elle n'avait jamais ouvert aucun livre de sa vie.
Est-ce que vous pouvez nous raconter aux auditeurs votre rencontre, qu'on comprenne un petit peu dans quelles circonstances finalement votre couple s'est établi?
Alors, à l'époque, j'avais quelqu'un dans ma vie que j'avais commencé un petit peu à initier parce que j'avais senti qu'il avait ça en lui et que ça demandait qu'à sortir. Moi, à cette époque-là, j'étais pas libre. Et lui, c'était un jeune homme qui avait une dizaine d'années de moins que moi. Et donc, à qui j'avais toujours dit, bah, le jour où tu rencontres quelqu'un avec qui tu as envie de faire ta vie, ce que je comprendrais tout à fait, tu me le dis, je m'efface parce que c'est normal. Sauf que lui, il n'a rien trouvé de mieux quand il a effectivement trouvé quelqu'un que de me ghoster. Donc, j'étais super mal. Et mon ombre et moi, on traînait sur les mêmes groupes Facebook qui, pour le coup, n'ont strictement rien à voir avec le BDSM. Sauf que lui, il n'a jamais caché ce qu'il était. Donc, je me suis dit, quelle est la personne la plus adéquate de mes contacts à qui aller demander conseil. Et un matin de septembre, je vois qu'il est connecté sur Messenger, lui envoie un message. Je lui explique un petit peu la situation et je lui dis, voilà, dans ma situation, tu ferais quoi? Et puis on a commencé à discuter. Et puis un jour, j'ai eu soudainement envie de passer du tu au vous avec un V majuscule. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est mort, t'es grillé. Monsieur.
Voilà, bah, je pense qu'elle a assez bien résumé l'histoire. On s'était contacté, donc on était sur un réseau donc totalement en dehors du BDSM. Et effectivement, moi je ne cache pas spécialement ce côté-là de ma vie, sans bien entendu rentrer dans les détails parce que ce sont des groupes sur lesquels c'est pas du tout le sujet. Voilà, mais voilà, donc effectivement, de temps en temps, j'ai des gens qui me contactent en me disant, tiens, toi qui connais un peu, qu'est-ce que tu conseillerais sur ceci, sur cela? J'écris également des articles, alors pas à titre professionnel, mais purement personnel, parce que j'estime que le savoir, ça se dispense. Je veux dire, moi, on me l'a donné. Des gens ont pris le temps de m'apprendre des choses. Voilà, et puis après, avec mon expérience. Eh ben, j'estime totalement naturel en retour de aujourd'hui donner un peu, rendre un peu ce savoir. Je suis auteur de pas mal d'articles sur le sujet que je dispatche un petit peu à droite à gauche là, effectivement, sur des groupes BDSM. Et un jour, Opal m'avait contacté en me disant, bah tiens, est-ce que je pourrais prendre un de tes articles pour le donner à la personne dont elle vient de parler, voilà, et je lui ai dit oui, tout à fait, pas de problème. Donc ça avait été nos premiers contacts dessus, où on avait un petit peu discuté, et ça s'était arrêté là. Et effectivement, lorsque elle était devenue célibataire, elle m'avait recontacté. Fatalité, je venais d'être célibataire en même temps, et voilà, on a commencé à discuter, et des liens ont commencé à se nouer petit à petit, et un jour, où elle a commencé à me dire, bah tiens, je commence un peu à être attiré. Je me souviens que la première phrase que je lui ai dit, j'ai fait, ok, dorénavant, c'est vous et c'est monsieur. Et ça a commencé pile à ce moment-là.
D'accord. La question qui se pose et qui est liée à l'article d'aujourd'hui, c'est amour et BDSM séparés ou associés. Vous, vous le voyez comment? Séparés ou associés? Et une fois que vous m'aurez répondu, comment ça se traduit dans votre relation?
Là, pour le coup, dans la relation que je vis avec mon ombre, c'est même pas associé, c'est indissociable. Je pense que j'aurais pas de sentiment pour lui, je pourrais pas m'abandonner aussi totalement.
Ce qui peut signifier que le moment où vous êtes passé au vous était concomitant au fait que vous ayez découvert des sentiments pour lui,
Ah, tout à fait.
au travers des diverses discussions que vous aviez eues précédemment.
Oui, tout à fait. Je suis même tombée amoureuse de lui. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait.
Comme quoi,
Vrai.
très clairement, c'est pas le plus important.
Absolument pas.
Et de votre côté, Ombre, ça s'est passé comment, de ce point de vue-là, la naissance de sentiments?
Alors, je pense que c'est arrivé à peu près en même temps. Le fait de le réaliser, par contre, peut-être pas, peut-être pour ma part, peut-être un peu plus tard. Je dirais peut-être à la première rencontre. Vraiment, le fait de le réaliser pour moi. Et la confirmation, ça a été à son départ. Quelques jours plus tard, quand elle est repartie, où je l'ai raccompagnée à la gare, et où elle est partie, et où j'ai vu le train partir, et là, j'ai fait, OK. Là, il y a quelque chose. Parce que, effectivement, le départ me laissait un manque, me laissait un vide. Il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Comment vous décririez votre couple aujourd'hui, alors de façon pratico-pratique? Est-ce que vous vivez ensemble? Est-ce que vous avez des enfants ensemble? Est-ce que vous avez eu des enfants auparavant, chacun de votre côté? Enfin, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus pour que les auditeurs comprennent qui vous êtes?
Donc, nous ne vivons pas ensemble. Nous voyons à peu près un week-end tous les 15 jours. Nous n'avons pas non plus d'enfants ensemble. On en a chacun de notre côté.
En gros, c'est ça. Par contre, il ne passe pas un jour sans qu'on se parle. Je crois que ça n'est jamais arrivé.
Votre relation aujourd'hui donc est sur cette base-là depuis le début, depuis 2 ans à peu près, c'est ça?
C'est ça.
C'est ça.
Pourquoi vous ne vivez pas ensemble? Indiscrétion peut-être.
Du tout.
Alors, d'une part, parce que chacun d'entre nous a ses obligations là où il vit. Et puis ensuite, parce que je pense que, et je pense que mon ombre ne me contredira pas, si on était H24 ensemble, on finirait par plus supporter. Je pense que le quotidien nous boufferait. Alors que là, en se voyant de façon épisodique, il y a toujours le plaisir des retrouvailles, le plaisir d'avoir attendu aussi mon ombre.
Alors, je dirais la même chose. Je suis intimement persuadé depuis plusieurs années que je ne suis pas fait pour vivre avec quelqu'un 24 heures sur 24. J'ai essayé, ça ne m'a jamais réussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai un besoin de solitude et de me retrouver seul. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est effectivement dans les rapports SM et de DS, nous ne le vivons pas lors de séances. Nous le vivons tout le temps. Nous sommes comme ça. C'est-à-dire, par exemple, le vouvoiement, c'est quelque chose de permanent. C'est pas juste quand on fait une séance.
Ça correspond à ce que
Oui.
les gens appellent du DS lifestyle.
Voilà. Mais je vais pas l'appeler comme ça parce que il y a une notion qui me dérange un tout petit peu. Ce serait plutôt quelque chose dans cette idée. Telle que moi je la comprends, où on provoque une situation et où on veut la vivre comme ça. Non. Là, chez nous, elle est posée naturellement. Je vais donner un exemple tout bête. Un soir, on se pose dans le canapé et on va regarder un film. Une situation toute banale. Dans 90% du temps, Opal va s'asseoir à mes pieds, poser sa tête sur mes genoux. Et c'est un geste totalement naturel. C'est pas une règle qu'on a établie. On n'a jamais dit, tiens, faudrait faire comme ça. On n'en a même jamais parlé.
C'est notre fonctionnement
C'est notre
depuis.
fonctionnement. Il y en a un qui domine, l'autre qui est soumis. Et je pense que c'est plus notre nature d'être humain, d'être comme ça, nous, plus qu'autre chose. Donc ça, c'est ce côté-là. Et c'est un côté qui est vraiment intense, qui est plus de l'ordre de la passion, peut-être. Donc, qui est vraiment très fort. Et c'est quelque chose qui brûle, qui bouffe tout le temps. Et il faut des moments de... il faut des moments où on peut souffler, il faut des moments où on peut être un peu plus léger, plus distant. Il y a également la notion du manque. Quand Opal vient chez moi ou quand je vais chez elle ou quoi, et qu'on se sépare, il y a ce manque. Il va y avoir cette attente qui peut parfois être désagréable, mais qui va donner quelque chose au moment des retrouvailles et qui va le surmultiplier. Et ouais, ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Quelque part, j'aime le manque. Parce que ce manque me prouve en permanence que oui, effectivement, il y a un lien. C'est pas quelque chose de commun, c'est pas quelque chose d'établi, ou un couple qui vit dans le même appartement ou dans la même maison, bah, au final, ils vivent comme ça. Et si un jour ils ne se manquent plus, si un jour la passion est cassée ou l'amour les désunit ou que sais-je, ils sont toujours les deux locataires d'un même endroit. Et ils vont devoir vivre ensemble, au moins pendant un temps, s'ils se séparent ou si ça revient entre eux. On est dans un cas où cette contrainte n'existe pas et où donc ce lien entre les deux, je veux dire, peut pas être nié. On n'est pas ensemble parce qu'on vit ensemble. On est ensemble parce qu'on s'aime, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de la passion, parce qu'on se désire, parce que perpétuellement c'est comme ça.
D'accord. Et vous pensez, on le sent bien, vous l'expliquez bien, que ce serait mis à mal par une vie commune permanente.
Sûrement, oui.
Personnellement, j'en suis intimement convaincu, le quotidien est quelque chose qui bouffe ce genre de choses, qui détruit ce genre de choses petit à petit. Très insidieusement, parce qu'on ne s'en rend pas compte, parce que c'est petit à petit. Ça, c'est une expérience que moi, j'ai vécue personnellement, et je pense que beaucoup de gens qui ont pu être en couple, sur le long terme, sur plusieurs années ou quoi, le quotidien, ça amenuise tout ça.
Quand vous dites ça amenuise ou ça vient le bouffer, vous parlez de la relation d'une façon générale, de l'amour, ou des relations, ou de la relation BDSM?
Pour moi, de la relation en règle générale.
Pour moi
Qu'une.
également, puisque s'il n'y a pas de différence entre une relation et une relation BDSM. Si on me pose la question, vis-tu une relation BDSM, je vais dire oui. Mais si on me demande, est-ce que tu es avec quelqu'un? Oui, je suis en couple avec quelqu'un. Pour moi, cette DS ou ce côté SM, c'est notre norme.
On n'a pas des moments vanille et des moments SM.
Ça bouffe pas la relation ou la relation DS ou la relation SM. C'est la relation dans sa globalité.
Il y a une remarque que j'ai envie de faire parce que je vous connais un petit peu via les réseaux depuis quelques mois maintenant. Il me semble qu'il y a quelque chose qui peut-être jouer dans votre façon de construire votre relation, c'est qu'il me semble que vous avez tous les deux un caractère bien trempé quand même.
Je vois pas ce qui vous fait dire ça.
Hein? Je crois que je vais garder les rires, ils sont une bonne réponse.
À peu près ça, oui. On est des caractères un peu impétueux, un peu volcaniques. Oui, tout à fait.
Aussi bien l'un que l'autre.
Oh, oui, clairement. Je pense qu'on n'aurait pas pu être ensemble si on avait été différents. Je veux dire, pour moi, être en couple avec une personne qui serait effacée, c'est pas possible. De par mon caractère, ce serait quelqu'un que je vais bouffer, littéralement. Et si j'ai pas un répondant en face, je m'ennuie. Comme
Ça,
faire une partie de ping-pong, il faut un adversaire, on va dire, qui est un peu à la hauteur. Sinon, si vous êtes beaucoup plus fort ou beaucoup plus faible que lui, la partie est pas très intéressante.
ça casse un peu le mythe de la soumise qui se doit d'être une serpillière complètement effacée.
Complètement, et c'est pas par hasard que je vous posais la question.
Très honnêtement, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit à mon ombre, je crois que c'est la relation la plus saine et la plus équilibrée que j'ai vécue de toute ma vie.
Quelque chose que je n'exprime pas toujours parce que pour moi c'est naturel et donc je ne pense pas forcément à le dire mais qui me semble très important, c'est que dans un couple vanille, nous avons deux personnes avec deux personnalités, deux caractères qui vont vivre et qui vont s'affirmer. Eh ben, dans un couple DS ou SM tel que nous sommes, c'est-à-dire de manière naturelle, c'est strictement la même chose. Alors oui, la DS est un protocole. Le fait de se vouvoyer, ce n'est qu'un protocole au final. Mais derrière ce protocole, il y a deux individus, deux êtres humains, avec leur caractère et leur personnalité, qui sont comme ça, et qui ne s'effacent pas derrière un protocole. C'est notre vie qui est comme ça, ce sont nos personnalités qui sont comme ça, et nous le vivons comme ça.
Votre protocole, le protocole que vous avez mis en place, étant l'expression de votre personnalité, aussi bien à l'un qu'à l'autre.
Tout à fait, oui.
Oui, et c'est un protocole qui s'est mis en place de façon totalement naturelle. Il n'y a pas eu besoin de pousser les choses. Il est dominant, je suis soumise, c'est notre nature. Et voilà, il y a des gens qui sont hétéros, il y a des gens qui sont homo, et ben nous, on fait du BDSM.
Je voudrais revenir sur ce qu'on disait qui était très intéressant à propos du vouvoiement et notamment vis-à-vis des amis de la famille, si vous pouvez m'en reparler.
Alors, vouvoiement, donc, c'est instauré naturellement et dès le départ. Mais tout le temps, elle ne me vouvoie pas que quand on est entre nous. Quand on est en famille, quand on a des amis ou quoi, elle me vouvoie tout le temps. Et donc, c'est quelque chose qui s'est instauré naturellement et qui ne choque personne dans notre entourage, parce que ça a toujours été comme ça. Alors, ça fait peut-être un petit peu aristocratique ou vieillot ou autre, mais ça passe très bien. C'est pas comme si on s'était connu en tant que couple vanille, qu'on s'était tutoyé, et que d'un coup, on passe à quelque chose de BDSM et où elle me vouvoie. Où là, ça aurait interpellé les gens en se disant, tiens, mais avant ils se tutoyaient, maintenant ils se voient, il y a quelque chose. Non. Là, ça a toujours été comme ça. Donc c'est quelque chose que les gens ont accepté, mais totalement naturellement, sans aucune question.
Qu'est-ce que vous pourriez en dire de ça, vous, Opal, vis-à-vis de votre entourage, amis, famille?
Bah, c'est quelque chose, comme disait mon ombre, voilà, ils ont toujours été habitués. Je sais qu'il y a certaines personnes que j'ai prévenues parce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement les interpeller. Donc, je leur ai dit, bah voilà, je le vouvoie, c'est notre fonctionnement. On m'a pas posé plus de questions. J'ai simplement expliqué que c'était le fonctionnement de notre couple, que c'était comme ça qu'on marchait et voilà, et ça a pas soulevé plus de questions.
Pour préciser le contexte pratique, vous le vouvoyez et il vous tutoie ou il vous vouvoie aussi?
Non, non, il me tutoie. Et ça me convient tout à fait.
Comment est-ce que vous aimeriez que votre couple évolue à l'avenir? Comment est-ce que vous voyez, je ne sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans?
Toujours ensemble, déjà. Monsieur.
C'est assez amusant parce qu'on en discutait hier soir et on discutait effectivement du fait que le fait de ne pas vivre ensemble, bah, ça nous convenait parfaitement. Et où je disais, mais quand on sera vieux, dans nos vieux jours, à la retraite, ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien me poser effectivement à ce moment-là. Et on a commencé à discuter de ça, sans faire de projet, sans tirer de plan sur la comète. Mais si aujourd'hui c'est quelque chose qui ne nous convient pas, quand on sera peut-être plus vieux, plus posé, plus calme, plus en fin de vie, en retraite ou ce genre de choses, oui, à ce moment-là, ouais, peut-être quelque chose où ce sera une retraite de vie, où oui, pourquoi pas finir ensemble dans un cadre posé qui puisse nous plaire, ouais, ça, oui, volontiers.
D'accord. Mais qui serait toujours BDSM?
Je vois pas de raison pour que ça change. Alors effectivement, avec l'âge, bah peut-être qu'il y aura des pirouettes qu'on pourra peut-être un peu moins faire. C'est très possible. On l'adaptera, je pense. Voilà. Un peu comme doivent faire les couples vanille. Je présume que, je sais pas, je verrai quand ça viendra. Mais à 80 ans, peut-être que faire des galipettes même dans un lit, ça doit plus être forcément très évident. Parce que le corps répond moins bien aux sollicitations, parce que tout un tas de choses. Je présume que ce sera la même chose pour nous, et que donc faudra peut-être s'adapter, on évitera peut-être certains trucs un peu scabreux, voilà. Mais
Vous
sinon,
éviterez les fessées trop fortes pour éviter de me péter le col du fémur.
voilà, ce genre de choses. Mais sinon, oui, dans ce cadre-là, oui. Je veux dire, dans le cadre au moins de la déesse, Oui, je pense que ce sera.
Ça changera pas notre
Ça
nature.
changera pas notre nature.
Je vous remercie d'avoir participé à cette interview et d'avoir donné votre avis et un éclairage sur votre relation particulière.
Avec plaisir et merci à vous.
Merci beaucoup. Et puis
Merci.
à tous les auditeurs, bah, n'hésitez pas à être vous-même, à vivre ce que vous êtes avec vos personnalités et dans ce que vous aimez.
Et à assumer votre nature.
Tout à fait.
Je pense que ça fera un bon mot de la fin. Bon.